Y aurait-il des différences subtiles mais inattendues entre les hauts potentiels intellectuels et les très hauts potentiels intellectuels? Eh bien, Charlotte Parzijagla, alors je vous conseille de répéter plusieurs fois son nom d'affilée, vous verrez l'exercice, Charlotte Parzijagla est psychothérapeute spécialisée haut potentiel intellectuel et très haut potentiel intellectuel. Elle est aussi l'auteur de deux livres fiables et rigoureux sur les HPI. Le premier s'appelle « 100 questions-réponses, questions de patients, réponses de spécialistes sur les adultes surdoués » et le deuxième s'appelle « 100 questions-réponses, questions de parents, réponses de spécialistes sur les enfants surdoués » et je vous les conseille tous les deux. Vous pouvez les retrouver en lien sur la description de cet épisode. Charlotte a une formation initiale de philosophie qu'elle a enseignée et on peut la retrouver aussi dans quelques vidéos super instructives sur YouTube. Je suis Raph et Intensément Podcast, le média qui vous accueille et qui explore l'univers des HPI et des neuroatypiques à la recherche des infos les plus fiables possibles, est ravi de s'être entretenu avec elle afin d'avoir sa vision éclairée sur ces sujets complexes. Dans cet épisode donc, Charlotte Parzijagla va explorer des différences inattendues entre haut potentiel intellectuel et très haut potentiel intellectuel. Pour vous aider dans la compréhension de cet épisode, je vous rappelle que les très hauts potentiels intellectuels sont ces personnes qui auraient un quotient intellectuel au-dessus de 145 points. Il va aussi être question dans cet épisode de test de quotient intellectuel, dont je vous rappelle aussi qu'il est composé, en tout cas pour les adultes, de 4 épreuves appelées indices. L'ICV, indice de compréhension ou raisonnement verbal, l'IRP, indice de raisonnement perceptif ou abstrait, l'IMT, l'indice de mémoire de travail, et l'IVT, l'indice de vitesse de traitement. Ces 4 épreuves sont divisées en plusieurs sous-tests. Le quotient intellectuel total, le chiffre total, n'est pas la moyenne de tous ces tests, mais un calcul de synthèse des notes obtenues à chaque exercice. Ces précisions étant dites, je vous laisse avec Charlotte Parzijagla. Bonne écoute et bonne visionnade.
Sur le plan théorique, il y a autant de différences entre 115 de QI et 130, c'est-à-dire entre un potentiel et quelqu'un qui est juste dans la zone supérieure, qu'entre un QI de 130 et de 145, c'est-à-dire entre un haut potentiel et un très haut potentiel intellectuel. Donc, en réalité, ce que moi j'ai constaté, alors ça n'a absolument aucune valeur scientifique, ce que je constate au niveau des patients que je peux avoir, c'est que finalement, on ne voit pas tellement de différence entre les hauts potentiels et les très hauts potentiels sur le plan du raisonnement, c'est-à-dire sur le plan de la pertinence, de la profondeur, l'imagination, de la distance, comme ça, vraiment sur le raisonnement pur. On n'a pas tellement de différence, c'est-à-dire il n'y a pas une fracture aussi nette que ce qu'on pourrait se dire entre quelqu'un qui a 115 et 130, quoi. C'est quand même assez similaire. La seule différence que moi je constate, alors qui encore une fois pas de valeur scientifique, c'est que les très hauts potentiels ont souvent par contre une résistance en termes de fatigue et d'énergie psychique qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire en clair, tu peux avoir une discussion de 4 heures très très intense sur le plan intellectuel sans que eux aient signe de fatigue en fait, alors qu'un haut potentiel au bout de je sais pas 1h, 1h30, il baille un peu et commence un peu à redescendre sur le plan de l'attention. Et ça c'est intéressant parce que ce qui souvent dans la plupart des cas va distinguer un haut potentiel d'un très haut potentiel, c'est souvent la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Le profil assez classique hein, du haut potentiel, c'est un très très bon score en verbal, supérieur, voire très supérieur dans le perceptif, et on a la mémoire de travail moyenne plus, et souvent une vitesse de traitement qui écrase un peu le QI. Et ça, finalement, la vitesse de traitement, elle est très peu représentative de l'intelligence. C'est-à-dire, tu as passé cette épreuve qui est code, où il s'agit de reproduire des sigles. Voilà, c'est très bête et disciplinaire, ça a à voir avec la réactivité, avec la rapidité, ce qu'on appelle l'encodage de l'information. Tu peux avoir un excellent encodage de l'information et être très bête. En clair, si tu as, je sais pas, un très très bon score à code, à la limite, si tu travailles à l'usine, c'est très pratique pour toi parce que tu vas être très efficace, tu vas vite renier les choses au niveau de la réactivité, du traitement visuel, tout ça, ça va être... mais ça ne veut pas dire du tout que tu es capable d'avoir une réflexion intelligente. Donc, code, il est pas très intéressant dans le haut potentiel intellectuel. D'ailleurs, souvent, et je ne sais pas pourquoi, les hauts potentiels chutent assez cette épreuve. Par contre, dans la déficience intellectuelle, il est intéressant parce qu'il est assez corrélé à la réussite scolaire, code. C'est-à-dire aux capacités d'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'au niveau scolaire, il faut pouvoir être réactif, pouvoir se plier à une consigne. Voilà, de même que vocabulaire, c'est très corrélé à la réussite scolaire. Si, par exemple, il faut expliquer comment tu as trouvé la réponse, il faut que tu aies la capacité d'expression qui soit correcte, ça va augmenter ta moyenne. Et quand on passe dans le stade du très haut potentiel, c'est qu'on a une très très bonne vitesse de traitement, ce qui est assez peu représentatif de l'intelligence, et une très bonne mémoire de travail aussi, même si bien sûr il y a tous les profils qui existent. Et ça, finalement, c'est plus en lien, encore une fois, avec un peu l'énergie psychique brute et pas tellement avec les capacités intellectuelles. C'est une bonne mémoire de travail, ça veut dire que tu as une bonne capacité de concentration, de focalisation et une bonne résistance à l'effort, en fait. C'est plus corrélé à la résistance à l'effort, s'il faut faire un grand trait, que véritablement à la réflexion. Donc, on va imaginer le cas de figure de quelqu'un qui aura un QI 130 avec le verbal et le perceptif qui serait bas, mais une très bonne mémoire de travail et une très très bonne vitesse de traitement. Tu peux même te poser la question du haut potentiel, c'est-à-dire dans le sens où c'est quelqu'un qui, a, à un moment donné, qui peut s'adapter de manière très efficace. Par contre, en termes d'autonomie de réflexion, bon, c'est pas. Si on suit la définition de l'intelligence au sens strict de pouvoir, à un moment donné, raisonner, c'est pas forcément exceptionnel.
J'espère que cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser. Je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que cet épisode n'aurait jamais pu exister sans le financement des contributeurs et contributrices de ce média, que je remercie intensément. Le financement participatif est ce qui le fait vivre et vous partager un maximum d'infos, d'entretiens et de témoignages. Si vous désirez vous aussi faire partie de la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et rétribuer mon travail à sa juste valeur, il y a un lien unique dans la description de cet épisode. Bienvenue dans notre vaisseau spécial. Un énorme merci à Charlotte Parzi-Jagla pour cet épisode. Il va y en avoir d'autres ou il y en a déjà eu, ça dépend de quand vous allez regarder ou écouter cet épisode. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.